RMC, cours numéro 1.
You cannot be serious! That ball was on the line!
Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe des Villes! Allons!
Anthony Reich.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. N'hésitez pas, comme toutes les semaines, à vous abonner à cours numéro 1 sur vos applis de téléchargement. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de nos futurs épisodes quotidiens qui approchent à grands pas, puisque Roland-Garros, c'est dans 15 petits jours. Et évidemment, le tirage au sort dans une semaine tout pile, au moment où on enregistre ce podcast. Ça sera d'ailleurs notre premier épisode embarqué dans les allées de Roland avec la Team Tennis pour débriefer le tirage au sort de cette édition 2026 de Roland-Garros. Et encore une fois, mille merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait vraiment très plaisir. Le premier à entrer sur le court, eh bien lui, il a eu deux wildcards pour disputer Roland-Garros dans sa carrière. Avec une somme d'argent un petit peu différente d'aujourd'hui. À l'époque, c'était 21 000 $. En 2013, la dernière wildcard de sa carrière, cette année, il aurait pris 87 000 €. Il n'a pas joué à la bonne époque. Salut mon Flo, salut Florent Serra.
Il remue le couteau dans la plaie. Salut Anto. Bonjour à tous.
Non mais c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Quelle croissance du prize money.
Là, en une dizaine d'années.
Alors qu'il y en a qui se plaignent aujourd'hui de ne pas gagner assez d'argent.
C'est vrai qu'il y a eu cette polémique aussi sur la répartition. Mais bon, bref, c'est autre chose. Mais
bah, tu te souviens ce que tu avais fait avec ta première wildcard, les sous?
J'avais placé tout ça. Hein. Bien sûr. On sait pas.
Prévoyant le flow.
Il fallait. Et puis non, ça a aidé aussi.
T'as pas acheté une Ferrari
Avec ma première wildcard, bon, j'étais 130 quand je l'ai eu. Avec peut-être 15 000 €. Non, la Ferrari, j'étais un petit peu juste, quoi. Ou alors une petite maquette. Bon,
au 32e. Le deuxième à entrer sur le coup. Alors lui, il a pas besoin de wildcard, puisqu'il est d'office intégré au dispositif de Roland-Garros tous les ans, depuis tant d'années. Mais il a sa loge, non pas encore, ou presque. Non, bon, en tout cas, il a sa cabine. Axe cour central, magnifique. Salut mon Erico, salut Eric, salut.
Salut à tous, c'est vrai qu'on a la plus belle cabine de Roland-Garros. Oui. C'est normal, on est radio numéro 1 sur le sport.
Mais oui, la radio numéro 1 du tennis,
bien sûr.
Également.
Un prize money modeste aussi, non, sur la quinzaine.
T'as pas eu de prize money pour ta victoire à Monte-Carlo?
Non, j'ai eu une bouteille de champagne que j'ai laissée sur place. Je suis généreux. Je l'ai offerte à quelqu'un.
Bon, en tout cas, on est là déjà au complet, on est en forme et on vous fera vivre évidemment ce Roland-Garros 2026 avec toutes nos cartes postales qui sont de retour dans les allées. Donc n'hésitez pas, hein, d'ici 10 jours, si vous êtes dans Roland et que vous voyez le micro RMC, eh bien c'est cours numéro 1, vous pourrez venir nous saluer, participer au podcast en vrai, c'est toujours mieux. Au menu de cours numéro 1 cette semaine, les copains, on va débriefer, parce qu'on ne l'a pas fait encore dans le podcast, l'attribution des fameuses wildcards de cette édition 2026 de Roland. C'est toujours un moment important pour de nombreuses joueuses et joueurs et nombreux joueurs français. Parfois, ça permet de découvrir l'univers des grands chelems pour les jeunes éléments ou encore lancer une dynamique en vue d'une progression qui peut être fulgurante par la suite. Sont-elles tout de même toutes méritées cette année? On va se poser la question. Il y a 2-3 choix qui sont un petit peu litigieux d'après la Team Tennis. Et puis, ça nous permettra d'animer un autre débat. Faudrait-il remettre en place la race qui marchait pas trop mal il y a quelques années pour aller chercher ses wildcards. C'est parti pour cours numéro 1. On va commencer par le tableau final avant de dérouler les wildcards tableau homme, tableau dame. Je vous signale, petit teasing à toi qui nous écoutes de façon fidèle, nous vous préparons une petite surprise du côté du trophée Clarins. Nous y étions entre les énormes averses hier avec Rico. On a un bel épisode qui est en train de se monter, ça va être sympa, sur le tennis féminin français et une certaine LB, Loïse Boisson. On ne sait toujours pas où elle est d'ailleurs. En tout cas, elle ne gagne pas beaucoup de matchs. On espère qu'il y en aura un peu plus dans les prochains jours. Tableau messieurs, pour commencer sur ce tableau final. Les wildcards ont été attribués par l'organisation et la direction du tournoi à Titouan Droguet, Hugo Gaston, Arthur Géa, Moïse Kouamé, Gaël, mon fils, et avec les forfaits récents des dernières heures, Eric, tu vas nous refaire un petit point. Celle de Stan Wawrinka, du coup, est désormais disponible, c'est bien ça?
Oui, elle a été redistribuée mercredi, puisqu'on a appris, et on le regrette tous, le forfait de Lorenzo Musetti. Et bon, on le sentait venir, hein, puisque...
Il n'était pas bien, hein, Romain, cette semaine-là. Il gagne son match sur Cerundolo, mais il termine vraiment sur les rotules.
Hein. Il pleurait, il était très ému, et je pense qu'au fond de lui, il savait que son corps était touché. Et donc, deux jours plus tard, il n'a pas existé contre Casper Ruud. Et donc, il a communiqué sur ses réseaux sociaux. Non, il y a encore une blessure au niveau de la cuisse. Il est très fragile, malheureusement.
Et... ça devient inquiétant, quand même. Hein.
Ah, mais ouais. Il est très inquiet parce qu'il n'arrive pas à trouver...
Il joue un super tennis.
Mais oui.
Mais je pense que si on comptabilise les trois dernières saisons, le paquet de blessures, le sac de course, il est plein.
Non, mais moi, il faut quand même rappeler qu'on a tous... on s'est émerveillé de la place de finaliste de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Novak Djokovic, il était totalement à la rue contre Musetti avant
gagner,
que l'Italien ne se blesse.
Oui, oui.
Il jouait un tennis merveilleux, il était totalement débordé. Donc, ouais. Non, c'est beaucoup. Moi, je suis très inquiet pour Musetti. Il va chuter évidemment à l'ATP. Déjà, il va quitter le top 10. Il ne jouera pas donc Roland. J'ai des gros doutes sur Wimbledon. Non, c'est un garçon.
Mais ça enlève encore un épouvantail dans le tableau masculin, mine de rien. Faut en parler, les copains.
C'est sûr.
Évidemment, tous les passionnés de tennis, ça va être un grand moment. C'est Roland Garros. Néanmoins, les éléments, entre guillemets, si j'ose dire, perturbateurs qui peuvent un peu semer la zizanie dans ce tableau et tenter d'avoir une équation un peu à deux ou trois inconnus, bah, ils sont de moins en moins nombreux.
Non, mais vous avez totalement raison.
On sait qu'on a raison.
C'est la question. Qui pourrait aller inquiéter Sinner?
C'est
encore ça. Donc, en fait, ça redistribue derrière.
Ouais, bien sûr.
Même un joueur comme Casper Ruud qui a un petit peu de mal
depuis
un moment et tout.
C'est peut-être la bonne cote.
Ouais, il est en train de re-bien jouer. On en saura plus la semaine prochaine quand on va avoir le tableau, parce que je pense qu'un joueur tout seul pour battre Sinner, c'est compliqué, mais s'ils s'y mettent à plusieurs sur plusieurs jours pour l'épuiser, trois argentins, peut-être qu'au bout d'un moment,
on dirait on croirait entendre une analyse de Tour de France,
ouais,
c'est vrai, dans la montée là,
équipe derrière, ouais.
Sur Pogacar,
voilà, faut les épuiser. On s'est égaré, donc vous étiez forfait, et donc la wildcard a été redistribuée à Clément Tabur, l'Angevin, qui est à son best ranking, il est 168e mondial, donc il devait faire les qualifs. Et bien voilà, il a une belle promotion, il jouera le grand tableau.
On va commencer dans ces wildcards du tableau, messieurs, mes copains, par Moïse Kwame. On en a beaucoup parlé, donc en numéro 1, ces derniers mois. On a aussi beaucoup parlé du choix que pouvait avoir Roland Garros quant à une wildcard tableau ou une wildcard qualif. Flo, selon toi, est-ce que c'est le bon choix de l'envoyer dans le grand tableau tout de suite?
On lui a laissé le choix, apparemment, de savoir s'il se sentait prêt à jouer le tableau final ou s'il voulait encore plutôt aller en qualif pour se préparer. Il a montré sur certains matchs, surtout à Miami, il a montré qu'il pouvait battre des joueurs du top 100, qu'il pouvait avoir un très bon niveau de jeu. Roland Garros, c'est autre chose. C'est un autre tournoi. Maintenant, il se sent prêt. Je ne sais pas si maintenant... Quand tu parles, tu as la case prize money qui joue un gros rôle sur ta réponse, on va dire.
Pas lui à son âge.
Donc, je pense que bon, il y a beaucoup de personnes aussi qui gravitent autour, qui sont là pour le conseiller et tout. Je pense qu'il a le temps de faire une belle carrière et tout.
Bien sûr.
Mais
est-ce que ce n'est pas une invitation à double tranchant quand même?
Ça peut, mais je pense que...
Parce que pour l'instant, il est observé du monde du microcosme du tennis. Et là, il va avoir sa première fenêtre d'exposition. Ça me rappelle Alizé Cornet quand elle était toute jeune et qu'elle a fait son premier Roland. Donc là, d'un coup, tu as les foyers français qui te regardent.
Mais ça ne l'a pas empêché de faire une belle carrière. Ça a un petit peu joué dans le mauvais sens pour Gianni Mina, par exemple. Je me souviens de la wildcard de Nicolas Escudé. Ça l'a pas empêché de faire une super carrière.
Il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes derrière.
Oui, mais je pense qu'il est... Il est assez intelligent, il joue assez bien au tennis. Il a montré déjà contre des joueurs du top 100 qui pouvaient en battre certains, qui pouvaient passer des tours dans des gros tournois en Masters 1000. Donc je me dis que il est préparé sur terre. Bon, il perd en 3-7 sur Bonzi au Challenger de Primrose. Là, il y a quand même un niveau de jeu de base qui est là. Et je pense qu'il peut très bien passer un tour. Après, c'est sûr que tu joues sur le central contre Yannick Sinner. Ça va être un match particulier. Ça va peut-être aussi lui servir d'expérience. Je pense pas que ça l'inhibe et que ça le grille totalement pour la suite de sa saison, voire encore plus grave
Eric,
de sa carrière.
Eric, t'es d'accord ?
Non, mais d'abord, je voulais souligner que c'est presque une sorte de tradition française de lancer des jeunes.
Oui.
Puisque c'est pas le plus jeune à obtenir une wildcard. Bon, il y avait eu Richard Gasquet qui avait 15 ans et presque 16 ans, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il sortait d'un très bon Monte-Carlo. Il avait battu un top 100, un ancien demi-finaliste de Roland. Fabrice Santoro a eu une wildcard à 16 ans. Jonathan Esserich a eu une wildcard à 17 ans. Nicolas Scudé, vous en parliez. Il n'avait pas eu de chance, il a joué Becker.
Oui.
On se souvient. Et là, c'était traumatisant.
Ça a été dur.
Olivier Mutis a 17 ans et donc Gianni Minna était encore un peu plus âgé. Donc là, c'est une sorte de tradition. Donc moi, je ne suis pas étonné. On sait que les... Et puis, on a envie d'afficher ton produit, quoi, ton jeune espoir.
Ouais,
effectivement, il est très prometteur.
Beaucoup de monde va venir le voir. C'est sûr que là, ça va être plein. Bon,
La seule inconnue, c'est qu'il va disputer un match entre 7 gagnants. Quoi. Mm-hmm. Là, on ne sait pas du tout où il en est. Alors, il s'est bien reposé après Madrid, puisqu'on ne l'avait pas vu sur le circuit. Il est allé se reposer en Grèce. Il était un truc à Athènes, parce qu'il appartient à IMG, un truc de jeune espoir. Bon, il prend quand même sévère dans le troisième contre Benjamin Bronzi, mais... Il va faire une sorte de reset puisqu'il va jouer un challenger en Italie la semaine prochaine. Donc déjà, ouais. Il ne sera pas sur Paris, tu vois, il ne va pas bouffer d'influx. Donc c'est bien qu'il a joué un...
Par l'excitation du,
voilà,
du tournoi.
Il va jouer un petit challenger en Italie et je pense qu'il va regagner des matchs. Et
celui qui avait lancé un peu Bublik sur Terre l'année dernière, que Bublik avait remporté et puis qu'après sur Terre, il nous avait fait un super Roland, pourquoi pas.
Mais là, c'est un tout petit challenger. Hein,
ouais,
un tout petit, hein.
C'est un petit, là.
Ouais.
Mais
Non, mais moi, je écoute, je ne suis pas étonné. Gilles Moreton, ouais, je vous dis, c'est une sorte d'exposition. T'affiches tes espoirs. Maintenant, il y a le risque qu'il prenne un très gros. Et là, ce serait, ouais, là, ça peut être un cadeau empoisonné. Mais même s'il prend 3-7-0 contre un Cador, il s'en remettra. Ce serait une bonne expérience.
Et puis, il y a eu quand même cette humilité. Tu vois, il a joué Miami, il avait joué Montpellier. Il y a eu l'humilité aussi de jouer des tournois futurs après. Il est allé jouer un tournoi, alors ça doit lui
Sardaigne,
changer.
Hein. En Sardaigne, il n'y avait pas de juge de ligne, il n'y avait pas de ramasseur, c'est très bien.
Il va le gagner, il sait très bien que ce n'est pas acquis, qu'il va encore devoir jouer plein de challengers. Donc non, pour moi, je suis assez d'accord aussi avec Eric là-dessus.
Et ben on a hâte de découvrir Moïse Kouamé dans le grand monde des grands chelems. Il va découvrir ça là, dans une dizaine de jours au premier tour de Roland. On verra ce que lui réservera le tirage au sort. Sur les wildcards de tableau final, messieurs, vous n'avez pas de coup de cœur, coup de gueule là, par rapport à ce que je vous ai énoncé. Bon, Gaël Monfils, on s'y attendait évidemment. Hein, il n'y avait pas de suspense. Arthur Géa, Hugo Gaston et Titon Roguet.
Ils ont respecté le classement.
Ouais,
voilà,
on est sur un des critères classique. On passe au tableau dames, avec de très belles wildcards. Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Léolia Jean-Jean, Sarah Kotomanga et Alice Tubelo. C'est d'ailleurs notre coup de cœur du jour, Eric.
Oui.
C'est même le moment. On relance le jingle, ça fait un petit moment qu'on ne s'en est pas servi. Du coup de fil à un ami.
Je vais passer un coup de fil à un ami. Hein.
On avait tous insisté sur le fait qu'elle se déplaçait avec une préparateuse mentale.
Au carreau, c'est fait.
Petite extinction de voix.
J'ai jamais vu ça, je crois. Incroyable.
Elle a eu une petite opération fin d'année dernière. Donc elle a raté l'Open d'Australie.
Oh l'enfoiré.
Exceptionnel ce jingle. Merci Flavien pour ce jingle. Tu sais qu'on va peut-être le modifier dans quelques jours. Ça sera peut-être le Alice, c'est fait. Pour son premier tour à Roland.
Oui, pourquoi pas.
Hein,
oui.
On lui dit bonjour.
Bah oui, avec plaisir. Hein.
Bonjour Alice.
Salut Alice.
Bonjour.
Comment ça va?
Merci d'être présente avec nous dans cours numéro 1. On voulait te mettre en avant parce que une wildcard pour le tableau final, c'est toujours un moment important. Comment tu as appris?
Eh oui, c'est ça qui m'intéresse.
Comment tu as appris l'obtention de cette wildcard?
Eh ben, j'étais en train de jouer sur le 125 000. Du trophée Clarins à Paris. J'étais arrivée fraîchement la veille d'Istanbul, pas beaucoup dormi, un vol de nuit. Je fais une entame compliquée, je perds 5-2 au premier set. Et c'est mon coach qui est sur le bord du terrain qui me dit « T'as wildcard tableau, Alice, maintenant lâche-toi et joue sans pression. »
En plein match.
C'est bon,
c'est rare ici,
génial, en plein match.
Ça a été assez marrant et forcément émotionnellement un peu les montagnes russes.
Ouais. Oui, parce qu'on suit ton parcours et tu vas nous faire un bilan de tes opérations. Parce que moi, je suis admiratif de ton courage, parce que combien de fois tu es passé sur une table d'opération? Décris-nous un peu, tu parlais de tes montagnes russes en termes d'émotion. Ta carrière, ça a été des hauts et des bas, parce que remonter la pente après des opérations, bah, je dis chapeau.
Et on rappelle que tu es jeune, hein, 25 ans.
Effectivement.
Hein.
Combien d'opérations alors? Combien d'anesthésie générale? On veut tout savoir.
Je crois 6 opérations. J'ai eu 2 opérations majeures au poignet, 2 petites qui ont suivi pour enlever du matériel. Ensuite, je me suis fait opérer de l'épaule. Et là, je me suis fait opérer des 2 hanches. Après l'Open d'Australie, l'an dernier. Oui.
C'est un sacré parcours. Il faut avoir l'envie et la passion et le feu sacré pour continuer après tout ça.
Ouais, carrément. Évidemment, à chaque fois, on ne s'y attend pas. Enfin, je ne m'y attendais pas, hormis l'opération de mes hanches, parce que je suis née avec une malformation génétique. Donc, je savais qu'un jour, tôt ou tard, j'allais devoir y passer. Mais pour toutes les autres opérations, évidemment, ça a été des gros coups d'arrêt. Il a fallu faire des comebacks à chaque fois. Je pense que j'ai aussi beaucoup grandi, beaucoup appris durant ces périodes et c'est aussi une force aujourd'hui, même s'il faut faire attention parce que c'est jamais anodin autant d'opérations.
Alors, en termes d'opération de la hanche, tu peux discuter avec Florent Serra.
Parce que
il a lutté avec toute sa carrière. Vas-y,
non,
vas-y,
non, pas d'opération, mais c'est sûr que c'est en plus dans le tennis d'aujourd'hui avec les surfaces, C'est une blessure d'ailleurs qu'on voit souvent. Plus qu'un malice, moi j'avais une dysplasie, aussi un conflit à la croissance. Donc bon, c'est un petit peu différent. Mais j'ai pas fait d'opération, mais j'ai lutté en permanence avec énormément de stretch et d'étirements.
Infinie, t'as été opéré, c'est ça que je veux dire.
Et après carrière, j'ai pas échappé à la prothèse. Je pense pas qu'elle
ait été prothèse hein.
Encore.
On te voyait boiter, mieux, là, quand même. Ça va mieux, tu marches maintenant.
Tu bipes dans les aéroports, Florent ?
Écoute, j'ai repris l'avion qu'une fois, ça a bipé, en effet. Ça va maintenant.
Alice, est-ce que tu penses que les responsables à la Fédé ont été touchés par ton parcours ? T'as eu des échos et est-ce que t'as reçu une tonne de messages parce que c'est une leçon de vie cette wildcard aussi.
Et ouais, c'est incroyable. Je pense que la fédération a plus été touchée de mes résultats que de tout mon parcours et évidemment les opérations ont été prises en compte puisque j'ai repris qu'en septembre. Après les opérations, il a fallu déjà réapprendre à marcher avant de reprendre le chemin du terrain. Donc ça a été un long processus. Évidemment, je n'ai pas performé directement. Et c'est vrai que j'ai vraiment performé là il y a 2 mois où c'est reparti vraiment bien et j'ai retrouvé tout mon tennis. Donc je pense que c'est les 2 derniers mois que j'ai fait qui m'ont permis d'avoir cette wildcard un peu inespérée, je vous avoue, vu le début de saison.
Récemment, tu as quand même réussi à décrocher, tu as bien joué sur terre hein. Avec 2 titres là en Italie au Burundi, c'est aussi peut-être ça qui récompense, qui est la récompense avec cette wildcard. Hein, on voit que c'est une surface qui te plaît.
J'ai toujours apprécié la terre. Mes hanches ont toujours apprécié la terre, pour être honnête, parce que j'ai pas pu jouer sur dur avant les opérations. Donc c'est une surface sur laquelle je jouais quasiment toute l'année. J'ai grandi sur terre. C'est la surface où je me sens la plus confiante, évidemment.
Et justement, tu as grandi du côté de Clermont, c'est ça hein ?
C'est ça, tout à fait.
Pour que tu expliques bien aux auditeurs, parce que là, ce que tu expliques, c'est que tu te rends compte, tu as dû, après les opérations, réapprendre à marcher. Le travail qui a été fait déjà pour gagner tous les matchs que tu as joués, en termes, les gens pensent que souvent, oui, vous allez au tennis, vous faites 1h30 d'entraînement le matin et l'après-midi. Mais physiquement, il y a un travail exceptionnel et je pense qu'en plus, tu dois rajouter beaucoup de prévention médicale, beaucoup d'étirements, beaucoup de stretch et tout. Et raconte-nous un peu ce que tu fais pour pouvoir être aussi compétitive maintenant.
C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, mais mon kiné avec qui j'ai passé le plus de temps, qui est mon prépa physique aussi aujourd'hui, parce que je ne peux plus avoir une préparation physique classique.
Ouais.
La muscu est adaptée, le renfo est adapté. Mais tout 2024, j'ai joué avec des douleurs qui étaient énormes et j'ai voulu tenir la saison jusqu'à l'Open d'Australie. Et ensuite, après les opérations, je faisais quasiment 6 heures par jour de kiné. Où au début, c'était sans appui au sol. Après, on a vite repris la force dessus. Et puis, c'était 6 heures par jour, non-stop, tous les jours, jusqu'à reprendre le terrain. Et encore aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de prévention en salle, beaucoup d'exos. Et ça me suivra toute ma vie.
Alors, Alice, dans les saisons passées, tu as fait deux fois les qualifs de Roland, si je ne m'abuse. Oui. Là, ça va être la découverte du grand tableau. Qu'est-ce que tu en attends de ce tournoi ?
Concrètement, je connais le site, j'ai l'avantage de connaître le site, de connaître l'endroit. Les filles, c'est aussi des filles que je rencontre maintenant sur le circuit WTA. Donc, je connais majoritairement les filles du tableau. J'en attends de pouvoir mettre en place mon jeu et puis franchement de profiter de jouer à la maison, un grand chelem et d'honorer au maximum cette wildcard.
Ouais, parce que l'ambiance entre les qualifs et même s'il y a beaucoup de monde maintenant aux qualifs, mais non, là,
ouais, c'est sympa.
Le lundi ou le mardi ou voire le dimanche, on ne sait pas quand est-ce que tu joueras, mais ça va être un moment génial à vivre pour toi.
Ouais, alors j'ai eu la chance l'an dernier d'être programmée sur l'Anglen quand il a plu. Donc tout Roland-Garros est rentré sur le l'Anglen. J'ai été un des premiers matchs, je crois, avec le toit, il me semble. Donc j'ai eu un petit avant-goût d'un Roland
rempli
dans une bonne ambiance.
Et en plus, bon, on en parlait tout à l'heure, nous, en rigolant dans le sommaire de cours numéro 1, mais mine de rien, jouer le tableau final d'un grand chelem pour des joueuses et des joueurs de ton classement, c'est aussi très important financièrement pour financer la saison, l'accompagnement médical, physique et sportif.
Exactement. C'est vrai que financièrement, ça permet d'être un peu plus sereine pour moi. La fin de saison, puis la saison prochaine, d'investir aussi un peu plus, d'être plus accompagnée, parce que toutes les filles qui sont en tableau de Grand Chelem ont des plus gros staffs, des plus grosses équipes, ont accès à plus de choses, parce que financièrement, évidemment, tout coûte cher. Donc c'est une énorme aide et j'espère que ça va me servir pour monter encore plus vite au classement.
Tu as suivi évidemment pas la petite polémique, mais bon, la fameuse lettre que toutes les stars ont envoyée à Roland-Garros et aux autres grands chelems. Évidemment, tu pousses pour que les choses évoluent parce que, on ne va pas rentrer dans les détails, mais parfois, tu as des années où tu es forcément dans le rouge, quoi. Et c'est dingue, moi je le répète tout le temps, mais que des joueurs qui soient 150e ou 200e mondiaux ne parviennent pas à vivre, alors qu'il y a des joueurs de D2, de foot ou de hand ou de basket qui ont des vies beaucoup moins stressantes. Moi, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Ça va être très, très dur à vivre.
C'est vrai qu'en étant 200e, on n'en vit pas. Pourtant, c'est notre métier. C'est quand même beaucoup de sacrifices. Alors, beaucoup de moments aussi très sympas quand on a l'opportunité de jouer Roland-Garros, par exemple. Mais de ne pas vivre de notre passion et de ce métier-là en étant 200e mondial, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports où ça se passe. Alors qu'on est quand même un sport très médiatisé et assez populaire. Donc c'est dur, on s'accroche, on espère que les instances vont nous aider, vont bouger un peu les codes et puis que plus de joueurs vont pouvoir vivre du tennis.
Alice, avant de te libérer, je voulais juste te poser une dernière question parce que ça va être un petit débat qu'on va avoir avec Eric et Florent juste derrière. Par le passé, il y a eu le système de la race pour obtenir les quelques wildcards donnés par la fédération, à l'image de ce que fait la FEDES. Est-ce que tu trouves que ça, c'est un système qui pourrait être relancé parce que ça permet aussi d'avoir une wildcard au mérite? Là, avec tes résultats, tu aurais pu peut-être, tes résultats récents, obtenir cette wildcard à la race. Comment tu trouves ce système?
Alors, pour être tout à fait honnête, je trouve que le système, c'est un bon système parce qu'au moins, c'est vraiment une wildcard au mérite. Et celui ou celle qui est devant la race mérite sa wildcard, en toute honnêteté. En revanche, le système qui avait été introduit en France, c'était une race qui était basée majoritairement sur des tournois qui étaient sur dur intérieur.
Bien sûr. Bien sûr.
Et moi, c'était la seule chose qui me posait problème parce que on sait tous qu'entre le dur intérieur et la terre extérieure, il y a un monde d'écart. Et notamment, par exemple, pour moi. Je suis un petit gabarit, je ne suis pas la plus grande des serveuses, je suis plus allée sur terre, donc ce n'était pas forcément en ma faveur.
Non, mais une race sur terre, ça pourrait être. Ça coulerait de source,
terre,
en fait.
Ça pourrait être envisageable, mais le problème, c'est qu'avant Roland-Garros, en France, il y a quand même peu de tournois qui sont sur terre extérieure. Donc ça veut dire qu'on sélectionnerait sur peut-être un mois avant Roland, ça fait aussi court. Il y a beaucoup de questions à se poser.
Ouais. Et toi, tu t'interdis donc de jouer sur dur, c'est dingue ça.
Non, plus maintenant.
Plus maintenant, ça y est.
Plus maintenant, non, maintenant je peux jouer sur dur, j'ai hâte de, de reprendre sur dur. C'est juste que bah, après les opérations, on a essayé de reprendre sur terre parce que bah, y avait encore des douleurs, un peu l'appréhension aussi pour moi d'aller sur dur. Donc j'attendais que ça aille vraiment mieux et là, je suis armée pour aller sur dur maintenant.
Wimbledon, ça va être trop juste pour toi là, le cut, non ?
Non, je vais, je suis 222.
Ah oui, classement protégé.
Donc,
ah oui, non, c'est bon
déjà,
alors.
Je suis protégé à 221.
Ah donc tu vas faire Wimbledon alors.
222, donc je peux rentrer avec mon classement.
Première expérience à Wimbledon, hein, c'est ça ?
Premier Wimbledon.
Ah, ça c'est quelque chose.
Tu vas te régaler sur le caoutchouc là. C'est moelleux, c'est super.
Bah, merci beaucoup Alice Tubello d'être passée dans cours
et
numéro 1.
Chance,
et puis on se retrouve porte d'Auteuil avec grand plaisir dans quelques jours. On sera là nous pour suivre l'entièreté du tournoi. Les copains, on continue de débriefer cette série et ces salves de wildcard. On va passer au tableau des qualifs. Parce que là, on a évoqué le système de la règle, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. On commence par le tableau dames et on finira par le tableau messieurs. Je sais qu'il y a quelques petits points de friction dans les qualifications, messieurs. Tableau dames, évidemment, pas mal de wildcards comme chaque année. Pour les Françaises, on a donc Elijah Inizan, Selena Yanisievic, Manon Léonard, très bonne joueuse de terre, Manon Léonard, Kristina Mladenovic, Amandine Mono, Daphné Mpechi, Péricard, Chloé Paquet et Margot Rouvroy. Rien de vraiment alarmant sur ses attributions de wildcard. Et au tableau, dans le tableau masculin, Florent Bax, le chouchou de cours numéro 1, ami de la famille.
Ouais, qu'on avait eu.
Cours numéro 1, évidemment, qu'on a suivi. Ouais, il n'était pas dispo aujourd'hui pour des contraintes de planning, mais on le retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine lors des qualifs. Robin Bertrand, Sean Quenin, qui obtient un sésame. Thomas Forel, Antoine Guibaudot, Sacha Guémard, Weyenburg, Calvin Emery et Daniel Jade. Mais bon, au final, la wildcard qui nous intéresse le plus dans ces tableaux de qualif, les copains, c'est David Goffin. N'est-ce pas, Eric ?
C'est très rare que la Fédération française accorde une wildcard qualif à un étranger. C'est très rare. Alors maintenant, j'étais bien placé pour en parler, parce que j'avais fait un podcast spécial avec David à Monte-Carlo. Et innocemment, j'avais dit... Enfin, moi, j'étais loin de... J'avais pas étudié son classement... Mais je lui avais dit, oh, ça va être génial, tu vas pouvoir retrouver l'ambiance de Roland-Garros. Tu avais joué Federer en huitième de finale pour ton premier Roland. Et il m'avait dit, si mon classement me le permet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il était hors cut. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il ne s'était pas inscrit pour les qualifs. Et là, on se rend compte que la liste descend. Et avec son classement au moment des inscriptions, je pense que David Goffin serait rentré. Bon, là, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais il reste 3-4 jours avant le tirage au sort des qualifs dimanche. Donc, il pique l'invite à un Français. Voilà, je le dis avec mes mots, mais c'est la vérité. Et je pense qu'il y a des Français qui sont assez mécontents, qui n'ont pas été servis et qui auraient peut-être mérité. Et si David avait... Alors, je ne sais pas si c'est un oubli ou si parce qu'il n'y croyait plus, mais ça me gêne un petit peu quand même, tout ça.
Ah, moi aussi, je trouve. Je trouve David a été un excellent joueur, c'est sûr,
oui,
mais
il n'y
a pas de débat là-dessus. Maintenant, lui donner une wildcard déjà parce qu'il ne s'est pas inscrit et prendre la place d'un Français, bon, je trouve ça pas normal, mais bon, les wildcards, vous savez, ça a toujours fait, ça a toujours fait parler. J'en ai fait les frais une année, c'était mon dernier Roland, et moi, j'ai pas eu wildcard en qualif. Pourtant, j'étais pas loin.
T'étais rôti.
Mais non, j'en rejouais mieux en plus à ce moment-là. Je lui avais dit, j'avais pas la prétention de la demander en tableau pour mon dernier Roland, mais au moins les qualifs...
Non, mais là, par exemple, si tu prends le classement ATP, si on découle d'une place, moi, je suis dans la peau... d'un Matteo Martino d'un Geoffrey
Ça fait râler. Non mais ouais. Ça fait râler. C'est...
Bien sûr.
C'est...
Je ne suis pas content.
Mais non, mais c'est normal. C'est normal.
C'est... Après,
c'est pas un dû, on le répète, c'est pas un dû.
Non, bien
mais
sûr.
Mais je le répète, filer une wildcard à un étranger en qualif, c'est rarissime.
Ouais, bien
autant
sûr.
Dans les grands tableaux, il y en a eu, Murray.
C'était pour s'excuser pour quand David s'était fait l'entorse dans la bâche.
Pour finir le
carrière, allez.
Non, en revanche, moi, le joueur qui m'intéresse beaucoup, enfin, il y a deux joueurs qui m'intéressent beaucoup dans ce tableau de qualif. Moi, je veux voir Daniel Jade sur un tableau de qualif de Stein. Ouais. Ça, c'est très intéressant.
parce que 17 ans.
Hein. On le voit depuis longtemps. On l'a vu jouer en 13-14. C'est très, très prometteur. Dans le tableau féminin de Calife, j'aimerais bien voir la petite Elidja, dont on parle beaucoup, qui a du potentiel. Donc, ça sera intéressant de
voir.
Je crois
qu'elle a été freinée par une blessure.
Oui, elle a eu des pépins.
C'est ça,
oui. Ouais, elle a eu des pépins. Ça sera très intéressant de voir ce que ça donne. Et puis après, bon, il y a d'autres jeunes joueurs qui vont découvrir l'univers des Schlem, comme Thomas Forel, par exemple. Ouais.
Il a déjà fait il y a deux ans. Mais Calvin Emery aussi, c'est tombé du ciel.
Ouais.
Hein,
parce que
s'il ne gagne pas à Brazzaville, je pense qu'il ne l'a pas.
Florent Bax fait finale aussi à Brazzaville. Et puis, ils ont bien joué quand même sur des challengers avant. Donc, bon, c'est des joueurs qui jouent bien sur terre et en plus qui ont un peu de confiance en ce moment, donc qui ont gagné des tournois. Il n'y en a pas non plus beaucoup, tournois français. Ils sont d'ailleurs super, ces tournois là, Abidjan, Brazzaville maintenant. C'est un
Daniel qui organise actif, parce qu'en plus ça va lui servir de répétition générale avant les juniors.
Là il a perdu à Bordeaux, j'ai vu, mais il fait pas un mauvais match.
Il gagne un set sur Imer,
exactement. Donc il y a des choses intéressantes en qualif. C'est bien de le lancer en qualif, bien sûr, pour voir ce que ça donne déjà.
L'an passé ils avaient lancé Moïse Kouamé, je me souviens, il perd en 3 sur un Espagnol. Et on avait vu de très très bonnes choses déjà. Donc il y a un coup de pouce aussi pour Sean Quenin, qui était membre de la bande des 4 quand les 4 juniors français avaient fait le dernier carré ensemble. Ouais, il est souvent blessé, mais il revient bien. Et voilà, je pense que on lui tend la main. Et c'est bien parce qu'il est jeune. Mais voilà, il y a beaucoup de jeunes. Bon, c'est. À part Florent Bach, c'est un peu plus âgé, mais lui, il s'était obligé de lui filer. Il était premier français non entrant. Tu peux pas. Pas gommer ça, le mec, il était cherché des points, il n'y a absolument rien à dire, c'est totalement mérité. Mais Daniel Jade, oui, ce sera à suivre. Antoine Guibaudot aussi, qui est parti aux États-Unis, qui maintenant a rompu avec la fac et qui se lance sur le circuit, donc c'est bien, non, c'est bien. Et puis chez les filles, moi je suis un petit coup de cœur aussi pour Amandine Monod, qui est une fille pas connue, mais qui est en train de décrocher son meilleur classement à son âge, et c'est totalement mérité aussi.
Ouais, non, il y a toujours de toute façon des très belles histoires. On essaiera aussi de vous faire des cartes postales pendant les qualifications en fonction des belles histoires à raconter, comme on fait chaque année. Et ça sera un pur régal. Messieurs, c'est l'heure de la guerre. C'est l'heure du quiz.
Ça fait du bien. Oh, c'est comme fils. Je me sens libéré.
Je m'en souviendrai de cette embuscade. Je m'en souviendrai.
Salut Flavien Ozokolski.
Salut tout le monde. Salut Flavien. Tu m'en veux toujours, Eric ? Il me dit pas bonjour.
Non. T'as vu, il a changé de visage d'un coup. Là, t'es rentré dans le
studio. En fait, je me suis rendu compte que quand je regarde le quiz, toutes les règles sont contre Eric, en fait. C'est fou.
Et encore, il s'en sort bien. Hein.
T'as pas besoin de le dire, l'auditeur avait compris.
Non, c'est pour ça, les deux dernières, on avait fait un tu préfères. C'est bien les tu préfères aussi, ça suscite des débats.
Allez, balance ton quiz.
Des tu préfères qui, in fine, sont arrivés sur les réponses les plus
logiques. Djokovic sur le GOAT de chez GOAT. Et après, Nadal le terre-battu. Mais un Gustavo
Kuerten. Balance ton quiz.
Ils ont été bons quand même pendant mon absence, ou parce que moi je reste sur des victoires.
Sarah est meilleure que toi. Sarah est normal, excellente.
11e quiz du coup déjà. On va parler aujourd'hui des jeunes joueurs qui ont marqué leur époque. Donc leur précocité au plus haut niveau, que ce soit en Masters 1000 ou en Grand Chelem. Vous êtes prêts? Question numéro 1. Quel est le plus jeune joueur à avoir remporté un Masters 1000? C'était dans les années 90. Quel est le plus jeune joueur avoir remporté un Masters 1000.
Ah ouais.
Michael Chang. Tu sais où c'était ou pas? C'était en 90. Au Canada.
J'allais dire Toronto.
Ouais, Toronto.
C'est vraiment un Masters 1000 merdique.
Non mais... Allez, débat. C'est parti, Eric. Le coup de gueule d'Eric.
Langage familier. Langage familier. On se casse.
C'est un tout petit Masters 1000. C'est un Masters 1800.
Voilà. Question numéro 2. Une seule réponse possible. Question numéro 2, une seule réponse possible. En 2025, qui s'est hissé dans le top 10 des plus jeunes vainqueurs en Masters 1000? Qui s'est hissé l'année dernière dans le top 10 des plus jeunes vainqueurs en Masters 1000? Une seule réponse possible.
Ah, une seule réponse possible?
Ouais. Il a intégré le top 10 des plus jeunes joueurs, des plus jeunes vainqueurs d'un Masters.
1000, ah oui.
Ouais.
Attends,
c'était aux États-Unis.
Jiří Ležka.
Non. Qui a gagné l'année dernière aux États-Unis?
À Cincy.
Un Masters.
À Cincy.
Non.
Non, pas à Cincy. C'est
Et qui est rentré dans le top 10 des c'est plus jeunes vainqueurs?
Bah, c'est Indian West ou Miami. Shelton.
Non, pas Ben Shelton, faux. Toi, tu avais dit
Ležka.
Non. Eric Salio.
Donc c'est Indian Wells ou Miami?
Oui.
Donc, qui gagne?
Mais non, je sais pas.
J'ai plus de mémoire.
Qui a gagné Miami l'année dernière?
Ah, bah oui! Ouais, je peux plus répondre.
Bah non,
mais non.
Ah, bah oui! Mensik, merci.
Ah, non, mais oui, c'était Mensik. Moi, je me suis trompé, j'ai mélangé.
Non, mais toi, je l'ai laissé s'enterrer.
Non, mais là, t'as eu à peu près 12 indices.
Moi, je réfléchis avant de parler.
Non, mais non, je suis bête.
Question pression pour Anthony, je vous rappelle la question pression. Un point pour Anthony s'il a la bonne réponse, moins un. Si tu n'as pas la bonne réponse, il n'y a que Anthony qui peut jouer. Quelle est la plus jeune joueuse à avoir remporté un grand chelem chez les filles en simple?
Martina Hingis.
Martina Hingis.
On y a déjà répondu.
Ouais, j'aime bien refaire les...
C'est moi qui l'avais dit.
Écoute.
Il va devenir comme Eric. Question numéro 4. Vous allez me donner le top 10 chez les garçons des plus jeunes vainqueurs en grand chelem. Le top 10.
Top 10?
Ouais. Donc attention, dans le top 10... Il y a, par exemple, il y a un joueur qui est plusieurs fois dans le top 10. Donc, on va jusqu'à la 17e place pour avoir 10 joueurs.
Ah, ok. Voilà.
Donc, ils
donc
sont...
les 10 plus jeunes joueurs, en fait. C'est pas le top 10.
Exactement. Les 10 plus jeunes joueurs
mauvaise formulation, la question.
Grand chelem.
Ok.
Je commence par Florent.
Michael Chang.
Oui.
Bah, c'était facile, ça.
Eric.
Nadal.
Raphaël Nadal, oui. Et Roland Garros en 2005 et 2006. Anthony.
Alcaraz.
Carlos Alcaraz, US Open 2022, Wimbledon 2023. Florent.
Eh, hey, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone là?
Je note.
C'est un tricheur.
Bah, Sinner.
Non,
je pense pas. Allez hop.
Florent, ça, c'est éliminé.
Je savais, là, c'est le match de cette nuit aussi là.
Eric.
Parmi les précoces.
Oui.
C'est bon, j'ai tous les
on
autres.
Parle bien de leur précocité. Les 10 plus jeunes joueurs à avoir remporté un grand chelem.
Ah bah si, oui, bien sûr.
J'enlève la veste, ça part mal là.
Boris Becker.
Boris Becker, oui, ouais. C'est le deuxième. Wimbledon oui, 85 et 86, Michael Chang étant le premier.
Oui.
Anthony. Il en reste 6.
Borg.
Björn Borg, oui. Roland Garros 74, 75, Wimbledon 76, Björn Borg. Il est quatrième. Eric.
Agassi était précoce, non?
Quelle est ta réponse?
Agassi.
André Agassi, non. Pas d'André Agassi. Anthony, s'il répond, la question qui vaut 2 points, je le rappelle. Et Anthony mène le quiz avec 2 points.
Ah oui, je l'ai.
Ça, c'est pour mettre la pression. Et le décompte, 5, 4, 3, 2, 1.
Vilander.
Mats Wilander sur le gong. Roland Garros 82, Open d'Australie 83.
On l'avait depuis 5 secondes.
Mats Wilander a mis du temps à se déclencher.
Ah non, il est sur le gong.
Ça sera sa première victoire en plus, on va lui laisser.
Anthony, 4 points. Question pression pour Florent.
Allez.
C'est une petite nouveauté, question pression pour toi, Florent. Mm-hmm. Nouveauté, un vrai ou faux?
Ça serait bien qu'il finisse en négatif.
Vrai ou faux?
Oui.
Vrai ou faux, Raphaël Nadal a peur du noir et des orages?
Non, mais c'est quoi cette question pression?
Vrai ou faux, Raphaël Nadal a peur du noir et des orages?
On n'est pas du tout dans la précocité là.
Ah, vrai. Mais...
vrai. Bonne réponse pour Florent. Un point.
Non, mais
oui,
ça c'est en fait c'est plus la question pression, c'est la question Florent.
Raphaël Nadal, il est nique le mec.
J'aurais préféré répondre à la tienne.
Bien sûr.
Il le savait. Il est nictophobe. Nictophobe, c'est avoir une peur bleue du noir.
Il est complètement.
Il regarde la télé quand il est tout seul dans sa maison. Il est obligé de dormir sur son canapé, avoir la télé allumée toute la nuit. Incroyable. Question numéro 6. Qui a remporté le Masters 1000 de Paris-Bercy à l'époque à 19 ans et 191 jours? C'était en 2022. Qui a remporté Paris-Bercy quand il avait 19 ans et 191 jours? C'était en 2022.
Enfin.
Je suis pas en forme, faut en profiter les amis. Plusieurs réponses possibles, hein. Allez-y, vous pouvez dégainer.
Oh là là,
19 ans.
Il a remporté le Masters 1000, il avait 19 ans et 191 jours. C'était en 2022.
Oh, je suis à la rue.
Il est dans le top 10 des plus jeunes vainqueurs en Masters. Il est 8ème, sa position dans le top 10.
Ah oui.
Il vient d'un pays scandinave.
Ah.
Arouneux.
Holger Rune.
Ah, mais oui, face à Djokovic en finale.
Oui.
Ouais. Question pression pour Eric. Vrai ou faux?
Oh là là.
Vrai ou faux, Eric?
C'est un truc d'or avec des chaussettes.
Le premier entraîneur d'André Agassi, Pete Fischer, ne connaissait rien au tennis. Il était pédiatre à la base.
Oh, Répète le nom, là.
Le premier entraîneur d'André Agassi, Pete Fischer, ne connaissait rien au tennis. Il était pédiatre. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Ça doit être vrai, ça.
Mais son premier entraîneur, c'était son père. Bah, faux.
Eh bien, c'est une bonne réponse, c'est faux. Ouais. Mais Pete Fischer n'était pas le premier entraîneur d'André Agassi. C'était le premier entraîneur de Pete Sampras.
Oui.
Voilà, donc bonne réponse pour Eric, il a 3 points. Dernière question. Question à 3 points, vous allez me citer les plus jeunes numéro 1 mondiaux. Les plus jeunes numéro 1 mondiaux, le top 10.
Alcaraz.
C'est parti. Anthony Alcaraz, oui, c'est le premier. Florent. Le top 10 des plus jeunes numéro 1 mondiaux.
Allez, Florent. Fais quelque chose, réagis.
Sinner encore.
Non, Yannick Sinner.
Non, comme Sinner, ça, je suis éliminé. Non, et oui, je voulais dire 8, pardon.
Non,
mais tu reprends le moi.
Au revoir. Oui, au revoir. Non, mais on fait
alors,
du social
je vais proposer Leighton et 8.
Non, Leighton et 8 pour Florent, j'accepte. À toi, Eric.
Oh l'arnaque.
Il est gentil.
J'accepte. Dans tous les cas, il ne peut pas gagner le quiz, Florent.
Ouais, c'est
pas possible. Ça se joue entre Anthony et toi.
Bon, je vais dire Becker.
Mauvaise réponse. Boris Becker n'est pas dans le top 10. Incroyable.
T'as vérifié Anthony, tes sources.
Ah, oui, oui, totalement.
Anthony, il est bien.
Anthony, s'il répond, il gagne le
Attends,
quiz.
Attends, redis-moi la question.
Cite-moi les plus jeunes numéro 1 mondiaux, le top 10. Carlos Alcaraz est premier du top 10. Leighton ouais. Hewitt, deuxième. Il en reste 8.
Il a réfléchi.
Qui ont été numéro 1 mondiaux
assez jeunes.
Assez jeune, le plus jeune possible.
Il y a un français dans la liste.
Il n'y a pas de français.
Oh, la balle perdue.
Ouais, j'essaie de te décontenter. Ça fonctionne.
Attends, on a dit Alcaraz et 8, ok.
5.
Agassi.
Becker, je vérifie.
André Agassi. Ah,
il,
non.
Il est, non.
On refait un tour.
Non.
Florent.
J'aurais dit un petit Borg.
Bien Borg, effectivement. 3 points pour Florent. Bon. Mais c'est Anthony qui gagne le quiz. Anthony, bravo, tu gagnes le quiz.
Bravo.
Mais j'avais une petite suggestion à la fin.
Ah là, j'ai été solide.
Si vous avez, franchement, vous avez une balle de match pour remporter votre premier tournoi du Grand Chelem, ok? Vous avez une balle de match. Et pourtant, vous n'avez pas de couche à proximité. Qui choisissez-vous entre Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ou Benoît Paire? Vous prenez qui?
Benoît Paire.
Tu prends Benoît Paire, toi,
tous les
pour
jours.
Remporter ton premier
une balle de match.
Ouais, Benoît une balle de match.
Les Florent. Deux autres, là, c'est...
Florent,
j'ai pas compris.
T'as une balle de match.
Ouais, moi.
Imagine. Non, t'as une balle de match. Ouais. Tu prends qui pour avoir la pour gagner ton premier titre du Grand Chelem? Tu prends Tsitsipas, Zverev.
Une seule balle de match. Qui joue à ta place?
Pour gagner mon tournoi du Grand Chelem.
Qui joue à ta place sur les trois?
Oui, qui joue à ta place? Zverev, Tsitsipas ou Benoît Paire?
Benoît.
Eric, incroyable.
Benoît parce qu'il fait une volée amortie rétro.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Merci les amis.
Merci mon Flavien pour ce magnifique quiz remporté avec beaucoup de brio.
Je vais quand même vérifier Becker parce que là ça m'intrigue là.
Les gars,
c'est pas sa
on se prépare. Tu m'écoutes
ouais.
On se prépare.
Ouais.
Tu prépares ton polo, ton short.
Ouais.
Des nuits endiablées à Roland Garros. Ouais. C'est dans une semaine que ça commence. Les premiers épisodes quotidiens avec les qualifications, le tableau final, on décortique tout ça. Et à partir de dimanche 24, le quotidien, la quotidienne, la carte postale quotidienne avec toute la team tennis à Roland Garros. À très bientôt sur RMC. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
RMC, cours numéro 1.